Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Alors que le texte contre les violences conjugales arrive à l'Assemblée en France, cette colère qui grandit en Turquie.
Ce que vous entendez là, ce sont des femmes députées qui tapent sur leur pupitre. Ça se passe au cœur du Parlement turc. Elles viennent ajouter ces femmes, leur voix aux manifestations de féministes qui protestent en ce moment contre un projet de loi du gouvernement. Un texte qui permettra aux violeurs d'épouser leurs victimes. Vous avez bien entendu, à Istanbul pour RTL, Mayalen de Castelbajac.
Marie, ton violeur, c'est en substance ce que contient le texte qui va être présenté aux députés d'ici la fin du mois. Ce projet de loi promet aux hommes ayant eu des relations sexuelles avec des mineurs de sortir de prison et d'être amnistiés s'ils se marient avec leurs victimes. De quoi pousser des milliers de militantes féministes dans les rues d'Istanbul et d'Ankara, des militantes qui viennent de tous bords politiques et religieux, aussi bien conservateurs que laïcs. Elles dénoncent une volonté du gouvernement de normaliser la vision de la femme comme objet sexuel et risque de faire augmenter le nombre d'agressions sexuelles. En Turquie, l'année dernière, 474 femmes ont été tuées par un conjoint ou un proche.
Mayalen de Castelbajac à Istanbul pour RTL. Une loi similaire existe déjà dans plusieurs pays arabes. L'Irak, la Syrie, le Koweït, la Libye, d'autres comme le Liban et la Jordanie l'ont abolie récemment. Et dans ces pays, permettre au violeur d'épouser sa victime est vu comme un acte de réparation. C'est ce qu'explique Fawzia Baba. Elle est responsable du Fonds pour les femmes en Méditerranée.
L'État le justifie par le fait de la réparation qu'on accorde à une femme du fait qu'on a commis un crime grave, c'est-à-dire qu'on a touché à son honneur et que pour pouvoir réparer ça, on lui propose en fait le mariage. Mais ce qui est grave derrière, bien évidemment, c'est qu'on ne voit pas en quoi ce viol est grave pour la victime. C'est la double peine, en d'autres termes. Non seulement elle a été violée, mais elle va être mariée également à son violeur. Donc c'est une façon de considérer que le viol n'est pas si grave.
La responsable du Fonds pour les femmes en Méditerranée avec Thomas Dulin pour RTL.
Alors on l'entendait avec notre correspondante il y a une minute. 474 femmes ont été tuées par leur conjoint l'an dernier en Turquie. C'est 4 fois plus qu'en France.
La France où le gouvernement a promis de s'emparer du sujet avec le Grenelle qu'on a vu il y a quelques semaines. Le projet de loi est débattu à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée. Il va créer notamment le délit d'espionnage au sein du couple, mais surtout, et c'est le point le plus sensible, il va permettre la levée partielle du secret médical. Un soignant pourra signaler des violences au procureur sans l'accord de la victime. Mais beaucoup de ces soignants sont réticents. Gada Hatem est gynécologue en Seine-Saint-Denis.
Ok, on porte plainte, mais qu'est-ce qui va se passer après? Si la justice n'intervient pas très vite, est-ce que cette plainte ne risque pas de mettre cette femme encore plus en danger? On ne va pas faire le boulot des policiers. Il faudrait qu'ils le fassent correctement. Il ne faudrait pas que 80% des plaintes soient classées sans suite, comme c'est le cas. Sinon, on risque aussi de la mettre plus en danger.
Propos recueillis par Émilie Beaujard pour RTL.
RTL Matin, 8h03.
Une nouvelle évacuation de migrants ce matin à Paris.
C'est la 60e opération du genre depuis 2015. Démantèlement d'un des plus grands campements porte d'Aubervilliers au nord de la capitale. Des centaines de personnes y étaient installées. Julien Fautra, vous êtes sur place. Ça se passe en ce moment dans la nuit et le froid.
Vous voyez, certains à peine couverts, sortis de leur tente de fortune, ces tentes noircies par la boue, par les excréments, des conditions de vie abominables ici dans ce camp devenu un bidonville dans la capitale. Tous les migrants, ils sont des centaines, patientent désormais avant de monter dans des cars. Une file qui semble infinie sur plusieurs pâtés de maisons. Une évacuation dans le calme, encadrée par la police et les associations. Cette mise à l'abri, ce n'est pas une de plus, prévient le préfet de police. Les migrants partent direction des gymnases et des centres d'accueil et d'examen de situation. Et les forces de l'ordre garderont les lieux pour ne pas que se reforme ici un nouveau camp dans le froid et la boue.
Julien Fautra en direct de la porte d'Aubervilliers à Paris.
C'est donc désormais une réalité. Les Français se convertissent au biocarburant.
La preuve avec ce chiffre que RTL vous dévoile ce matin, les ventes de ce carburant issu de l'agriculture se sont envolées l'an dernier de 85%. Alors certes, on part de très loin, mais c'est le signe qu'il se passe quelque chose, que les mentalités évoluent et que les distributeurs s'adaptent. C'est aussi le résultat de l'homologation du fameux boîtier qui permet de mettre du biocarburant dans sa voiture.
Alors, le biocarburant plus écologique et plus économique, est-ce vraiment le cas? Eh bien, c'est la question du 8.
Et c'est avec vous, Christophe Bourreau, bonjour.
Bonjour.
Le super éthanol 85 permet-il, à la fin du mois, de faire baisser la facture?
Eh bien oui, car en plus du large sourire que vous avez à la pompe, 69 centimes d'euros le litre, au final, vous réalisez des économies entre 500 et 600 euros tous les 13 000 km. De plus, la carte grise est quasiment gratuite dans la plupart des départements. Mais attention, la rentabilité n'est pas immédiate, car ce carburant consomme 15 à 20% de plus. Si vous ajoutez à cela l'installation du boîtier, comptez environ 1 000 euros, on estime donc qu'il faut en moyenne 2 à 3 ans pour rentabiliser son achat.
Donc économique, oui, dans la durée, et écologique.
Oui, en tout cas davantage que les carburants traditionnels, composés jusqu'à 85% d'éthanol. Le 85 est issu de l'agriculture, de la betterave ou encore de céréales, qui permet de diminuer de 50% les émissions de CO2. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ce carburant est moins taxé.
Et en dehors des kits, l'offre des constructeurs est faible?
Alors oui, seul Ford propose en ce moment un véhicule neuf dans cette motorisation, baptisé le Kuga, et le succès est fulgurant, puisqu'en à peine 6 mois, le 85 représente désormais 90% des ventes de ce modèle, c'est du jamais vu. Enfin, si le nombre de stations est encore modeste, tout juste 20%, les pétroliers accélèrent les ouvertures au rythme de 2 par jour. On devrait ainsi rapidement dépasser cette année les 2000 stations en France.
Passionnant, la question de 8h avec Christophe Bourreau.
Et Total, qui fait partie des distributeurs de ce biocarburant, se voit traîner aujourd'hui devant la justice pour inaction climatique. 13 collectivités et 5 associations attaquent le groupe pétrolier devant le tribunal de grande instance de Nanterre. Elle lui reproche de ne pas appliquer pleinement l'accord de Paris sur le climat. Parmi ces collectivités, il y a la commune de Bise-Minervois dans l'Aude. 1 000 000 d'habitants régulièrement victimes d'inondations totales et dans leur viseur, vous allez comprendre, avec ce reportage sur place de Patrick Tégéro.
La Cesse traverse Bise-Minervois et ce petit ruisseau se transforme de plus en plus souvent en torrent furieux. Alexandre tient le restaurant du village.
L'année dernière, oui, on a tout perdu. Nous, en 3 ans d'exercice, on a été inondé 3 fois. Alors que l'ancien propriétaire, lui, n'a pas été du tout inondé. Dernièrement aussi, on a eu chaud, c'est passé pas loin. Le dérèglement climatique dû aux excès de Total devient de plus en plus fréquent.
Total est l'une des 20 multinationales considérées comme les plus polluantes au monde. Parmi d'autres, le maire de Bise a décidé de porter plainte contre Total. Nous sommes sur le gué de la rivière, aux eaux claires et chantantes. Mais Alain Fabre, monsieur le maire, est en colère.
Vous savez, les catastrophes naturelles en France représentent 3 milliards d'euros de dégâts. Ce sont quand même nos impôts qui payent les sinistres sur le domaine public. Pendant ce temps, des entreprises polluent, mais ne payent pas. Et ça, c'est inacceptable. Et la dernière année, ils ont fait 18 milliards de résultats, de bénéfices. Ils ont distribué 8 milliards aux actionnaires. Mais il faudrait qu'ils soient un peu plus citoyens.
Tout simplement, avec l'ONG Notre Affaire à Tous, le maire de Bise souhaite que le principe de pollueur-payeur soit mis en place également pour le dérèglement climatique.
Reportage signé Patrick Tégéro. Il faut que tout le monde réduise ses émissions de gaz à effet de serre. On va accompagner les industriels. C'est ce que disait il y a quelques minutes sur RTL Elisabeth Borne, la ministre de la Transition écologique et solidaire. Le coronavirus a fait 106 morts en Chine. C'est le tout dernier bilan. La rentrée des classes a été repoussée, sine die par mesure de précaution. Le Japon vient d'envoyer un premier avion à Wuhan, l'épicentre de l'épidémie, pour évacuer ses ressortissants.
Dans un court instant, le préfet du Morbihan veut utiliser des drones pour surveiller les dealers.
Mais ça m'empêchera pas d'aller chercher mon trip. Même le drone, si j'ai une carabine, boum.
Bah écoutez, voilà, vous aurez tout le reste dans un instant.
RTL, 8h08.
RTL Matin.
RTL 8h10, la suite du journal. Jérôme Florin, Yves Calvi.
Ah, il fallait y penser, hein, des drones pour traquer les dealers.
C'est l'idée du préfet du Morbihan pour lutter contre le trafic dans certains quartiers de Vannes. Les images recueillies par ces mouchards volants devraient permettre de faciliter le travail des enquêteurs. Reportage de Nicolas Bobby.
Vannes, quartier de Minimur, au pied de cet immeuble HLM, le supermarché de la drogue est ouvert. Des automobilistes s'arrêtent, achètent des produits stupéfiants. Le préfet du Morbihan, Patrice Faure, est bien décidé à stresser les dealers et les consommateurs avec un moyen novateur.
Un drone qui ira se recharger automatiquement, fera des rondes qui seront programmées et sur des zones qui seront clairement identifiées. L'idée, c'est que les images et donc l'appareil soient judiciarisés et que justement, ça serve aussi de preuve dans des enquêtes, etc. Et donc, s'il y a moins de consommateurs, il y aura moins de dealers.
Cette épée de Damoclès ne fait absolument pas peur à ce consommateur de cannabis.
Ça ne m'empêchera pas d'aller chercher mon trip. Même le drone, si j'ai une carabine, boum.
Dans le quartier, tout le monde connaît l'adresse du point de vente. Les avis sont partagés sur l'utilisation du drone.
C'est une bonne chose parce que ça empêcherait les dealers de persévérer.
Ils vendent aussi dans les cages d'immeubles, donc les drones, il ne pourra pas les voir s'ils sont à l'intérieur, c'est tout.
C'est pas normal que nos enfants sachent que les petits jeunes qui guettent, ils gagnent de l'argent.
Les habitants réclament surtout beaucoup plus de policiers. C'est prévu, le drone ne travaillera pas tout seul.
Nicolas voilà. Bobby, les pompiers manifestent à nouveau aujourd'hui à Paris. Ils réclament une revalorisation de leur prime de feu. Les syndicats pourraient être reçus ce matin par Christophe Castaner.
RTL, il est 8h12.
RTL, municipal 2020.
Gérald Darmanin est donc un ministre en sursis.
Puisque le locataire de Bercy officialise sa candidature à la mairie de Tourcoing, il démissionnera en cas de victoire. La campagne fait fleurir les ambitions. On a beaucoup parlé de la dissidence Villani à Paris. Ça tangue aussi du côté du Rassemblement National à Calais. Calais et ses camps de migrants, une ville qualifiée de gagnable par Marine Le Pen. Mais le candidat investi par le parti n'est pas du cru, ce qui agace au plus haut point le baron local du parti, Marie Mollet.
Oui, il a failli avoir son visage placardé dans tout Calais, estampillé RN. Finalement, Rudy Vercuc, calaisien pur sucre et conseiller régional, s'est vu retirer l'investiture du parti au profit de l'ex-assistant parlementaire d'un proche de Marine Le Pen. De quoi s'étrangler.
La logique du Rassemblement National, c'est de placer les copains et d'empiler les mandats, mais surtout de ne pas empiler les compétences. On est face à une liste de parachutés, hein. Il y a des gens qui viennent un peu de partout, sauf de Calais.
Le candidat officiellement investi, lui, s'appelle Marc de Fleurian, ancien militaire, fraîchement débarqué du Morbihan. Il justifie son parachutage sans complexe.
C'est qui Rudy Vercuc ? C'est un petit monsieur qui poursuivait un agenda personnel, qui avait déjà fait le vide autour de lui. Honnêtement, ça vaut pas le coup de s'étendre, c'est assez médiocre.
Mais dans les rues de Calais, le jeune candidat RN souffre encore d'un déficit de notoriété.
Marc de Fleurian, c'est quoi ça, le joueur de football ?
C'est le neveu de Marine Le Pen. Non, c'est pas ça ?
C'est l'adjoint au maire. Non, c'est pas ça.
Rudy Vercuc, lui, sera candidat sans l'étiquette du RN, une dissidence qui a fait tache d'huile dans le Pas-de-Calais, en plein fief de Marine Le Pen. Deux cadres locaux ont claqué la porte dans son sillage.
Reportage signé Marie Mollet. Un mot de football pour le coup d'envoi des huitièmes de finale de la Coupe de France. Ce soir, Belfort affronte Montpellier et le petit poussé Limonest affronte Dijon.
C'était le journal de Jérôme Florin.